premier acte, entr'acte,
etc. Oui, voilà, ça j'ai oublié de vous poser cette question-là, parce que c'est très théâtral dans la composition.
Absolument, donc j'ai très envie aussi de faire entendre ce livre, parce que je pense aussi qu'il y a une dimension de musicalité, et j'ai vraiment envie de l'incarner aussi, ce livre, en tant qu'acteur, parce que c'est aussi un aspect qui est important pour moi.
Acteur, agir, l'action, comme on dit au cinéma. On peut vous voir, on peut vous rencontrer prochainement, je crois, Noël Herp.
Alors, il y aura une signature, une nouvelle signature, le 8 juillet à 11h30 à la librairie Préférence à Tulle.
Tulle, voilà. Si...
Non loin de la maison natale d'Éric Rohmer, qui est un projet dont je m'occupe, et voilà, et pas loin d'une maison que je me suis achetée en Corrèze. Donc voilà, c'est un pays merveilleux, et dont je parle d'ailleurs. Cette librairie Préférence de Tulle, c'est le décor, puisqu'on parlait du décor, c'est le décor sur lequel se termine mon livre.
Il y a d'autres conférences, puisque je sais que vous faites beaucoup de conférences sur le cinéma, il y a d'autres rendez-vous.
Alors, il y aura également une rencontre à l'IMEC, où se trouvent les archives de Bernard Pivot, à l'IMEC, à l'abbaye d'Ardennes, à côté de Caen. Donc ça, je pense que ce sera début octobre. Et puis, je me permets, très modestement, de dire que j'ai un nouveau livre qui va bientôt sortir, chez Capricci, qui est plutôt un livre d'historien du cinéma, sur les travestis dans le cinéma.
Vaste chantier, vaste sujet. Bah, merci à vous, Noël R, pour Ma vie avec Bernard Pivot. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Bah, c'est un livre ami, comme on dit, comme petit livre de chevet. On fait penser un peu à Frédéric Vitoux, quelque part.
On peut le lire dans le désordre.
Il y a, voilà, avec. Et puis surtout aussi des traversées de Paris, je trouve, des évocations, vous suggérez. À l'époque du Champollion, toutes ces époques qu'on a connues à Paris. Et merci à vous tous.
Merci à vous.
Je pense, alors on pourra réécouter l'émission sur le site de Radio Libertaire, à travers le podcast, et je suppose que nous allons avoir une musique de fin.
Oui, nous allons avoir une petite musique de fin, parce que là, il y a les missions sur la littérature prolétarienne qui arrivent, qui est en train de s'installer. Et puisque vous avez... évoquer des tas de portraits, eh bien, je vais finir par le portrait du contrebassiste Santi Debriano, extrait du disque qui va paraître fin juin chez je sais plus quel label. Bref, c'est pas grave parce qu'on n'a pas le temps, il reste que 3 minutes. Thank you.
je me répète que t'es banal. On se console quand on écrit entre un papier blanc de poème et une chope protectrice. Je me ménage mes dernières brèmes, mon poker je me joue gratis. J'essaie d'oublier tes je t'aime, de mépriser tes artifices dans un pichet de bière de brème. Il est bientôt 2h10. Entre une horloge et les guitares et le comptoir de bois verni, je me sens l'âme d'un fêtard, d'un balayeur ou de Jésus-Christ. Chez moi l'alcool n'est pas bavard, chez moi l'alcool jamais ne crie. Chez moi le feu est en retard, quand on me chante tu viens chéri. Entre mon cœur et ma mémoire brouillée qui s'enfuit, je t'attends encore dans le noir, je t'attendrai encore et puis tu vas venir, je veux y croire, je me fous qu'il soit 2h30. Tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. Garçon, un demi.
Comme cet éphémère brûlé de lumière à l'unique envol, je suis de passage. Je suis de passage. Comme cette flamme aux yeux d'une femme que souffle l'ennui. Comme ce silence corrodé d'absence de Mozart aussi, je suis de passage. Je suis de passage. Ne m'attendez pas, je ne reste pas, je passe dans le temps, je passe dans le temps. Ne m'attendez pas, je ne reviendrai pas, je suis comme le vent, je suis comme le vent, je suis de passage. Comme ce sanglot, ce fragile écho qui ricoche encore et finit sa course bien loin de sa source qui s'évapore, je suis de passage. Je suis de passage. comme cette larme couvrant le vacarme d'un tambour de cœur, comme cette étoile peinte sur la toile qui perd sa couleur. Je suis de passage. Je suis de passage. Ne m'attendez pas. Je ne reste pas, je passe dans le temps. Je passe dans le temps. Ne m'attendez pas. Je ne reviendrai pas, je suis comme le vent, je suis comme le vent. Je suis de passage. Comme ce visage croqué sur la plage qui lui souriait, comme cette enfance dont l'adolescence efface le trait. Je suis de passage. Je suis de passage. Comme l'onde pure qui suit la mesure sous l'archer qui pleure, et évanescente suit dans sa descente la peau qui l'effleure. Je suis de passage. Je suis de passage. Ne m'attendez pas. Je ne reste pas, je passe dans le temps. Je passe dans le temps. Ne m'attendez pas. Je ne reviendrai pas, je suis comme le vent, je suis comme le vent. Je suis de passage, je passe dans le temps. Je ne fais qu'un tour, un tour de passe-passe, pas le temps, par les temps qui courent. Je passe dans le temps, je ne fais qu'un tour, un tour de passe-passe, pas le temps, par les temps qui courent.
Je file comme
je passe dans le temps. Je ne fais qu'un tour, un tour de passe-passe, pas le temps, par les temps qui courent. Je suis de passe, je passe dans le temps. Je ne fais qu'un tour, un tour de passe-passe, pas le temps, par les temps qui courent. Je passe.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature, animé par des personnes qui sont membres du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, le CLOPS, qui publie également la revue Fragments, revue de littérature prolétarienne, dont le numéro 7 paraîtra incessamment sous peu à la fin du mois. Nous venons donc d'écouter Yves Jamais, un extrait de son CD, dont le titre est l'autre, extrait qui s'intitule « De passage ». Alors aujourd'hui, dans le studio, nous sommes trois de notre association. Michel, qui nous parlera tout à l'heure de la grotte Kosker. Frédéric, qui est à la technique et qui est membre du groupe La Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et moi-même, Raphaël, de l'association. Nous avons dans le studio aujourd'hui un invité qui est Jean-Pierre Gault, qui va nous présenter tout d'abord une association qui s'appelle l'Association pour la promotion de la littérature ouvrière, l'APLO, dont on a déjà parlé dans la revue, mais dont il est bien utile d'évoquer l'existence et le travail aujourd'hui, et qui vient de rééditer un livre de littérature prolétarienne qui s'intitule « Mélène » de René Berthelot. Alors, nous finirons, après avoir consacrer une grande partie de l'émission à cette association, la PLO, et à l'ouvrage Mélène. Nous aborderons un point sur la grotte Kosker, et ensuite nous finirons, comme d'habitude, par quelques informations qui concernent les activités de notre cercle et le travail en cours pour les mois et semaines à venir. Voilà. Alors tout d'abord, Jean-Pierre Gault, peux-tu nous indiquer ce qu'est l'association pour la promotion de la littérature ouvrière.
Bon, bonjour à tous déjà, tous les auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. Alors la PLO, c'est donc une association, comme son nom l'indique, l'association pour la promotion de la littérature ouvrière, qui a été créée dans les années 2000 par deux frères, c'était Paul et René Berthelot. Qui étaient deux ouvriers à la base qui étaient du monde du Nord, qui étaient mineurs tous les deux, qui n'ont pas été mineurs toute leur vie, mais enfin bon, qui ont commencé leur carrière par par descendre dans la mine, hein, et donc qui ont créé cette association et qui a pour but en fait d'enrichir une manière de bibliothèque, de promouvoir des textes contemporains et pourquoi pas non contemporains pour pouvoir éditer des articles de presse éventuellement qui sont tous en rapport avec le monde ouvrier et qui sont écrits par des ouvriers ou des paysans, pourquoi pas, on les oublie souvent, mais bon, c'est vrai qu'on ne parle pas du monde paysan dans le titre de la PLO, mais bon, il faut aussi qu'il soit présent. Et donc c'est surtout... une association qui est visible sur Internet, hein, qui n'a pas beaucoup de, qui n'a pas de revue comme Fragment, hein, comme celle du Clops, hein, et qui est dont une bibliothèque riche d'environ 300 ouvrages est consultable sur Internet, moyennant une cotisation de, je crois, de 25 euros. Et pour ce prix-là, bah, on peut consulter tous ces ouvrages et puis un certain nombre de références, de textes. Et de,
donc c'est une base de données qui est accessible.
C'est une base de données, oui, c'est une base de données. C'est les livres qui étaient essentiellement la numérisation de la bibliothèque de René Berthelot, donc qui écrit Mélène, dont on parlera tout à l'heure. Et puis celle de Paul aussi, et puis bon, voilà, qui ont été numérisées et mis en ligne. Et qui sont consultables, qui sont lisibles sur le site de la PLO.
Tu as évoqué donc Paul et René Berthelot, donc mineurs. Oui. Je veux dire, leur travail à la mine, ça se situe à peu près à quelle période pour un peu.
Alors ça se situe un petit peu avant la guerre. Enfin, René Berthelot, donc l'auteur de Mélène, est né en 1933 dans le Pas-de-Calais. Donc le roman se situe pendant les années de guerre. Donc en 1939, il avait 6 ans, 6 et 3, 9, c'est ça, ouais, exactement. Et alors que Paul, son frère, lui, est un peu plus jeune, puisqu'il est né, il est né en 1938, à Oudin, dans le Nord.
Et les deux étaient mineurs
Alors les deux ont commencé leur carrière comme mineurs, oui. René Berthelot, lui, n'a pas fait... a été à l'école communale comme tous les gamins, quoi. Elle a eu son certificat d'études comme beaucoup de gosses, hein, brillamment, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce qu'on m'a dit. Et il était destiné à aller au collège, il était encouragé par ses instituteurs, mais malheureusement, la pression familiale a fait qu'il a dû, à son tour, descendre dans la mine. Pour aller travailler, comme Galibaud au départ, hein, ce qu'on appelle les Galibaud, ça je revois un petit peu Émile Zola. Les Galibaud, c'est les jeunes hommes qui avaient, à partir de 14 ans, aller travailler à la mine. Donc ils descendaient à partir de 16 ans, parce qu'à partir de 16 ans, on pouvait descendre dans les puits de mine. À 14 ans, on restait en dehors, enfin bon, on ne descendait pas. Et lui, donc René, est descendu à partir de 16 ans, est allé travailler à la mine. Il n'est pas assez mineur toute sa vie, il en est parti à un moment donné, mais il a commencé à travailler à 16 ans.
Et son frère, donc Paul, plus jeune, a suivi le même chemin quelques années.
Exactement, sauf qu'il n'a pas... René est allé 2 ans au collège, mais bon, il le retirait très vite, je pense pour des raisons financières, hein, parce qu'on ne pouvait pas continuer à... Les enfants de cet âge-là, de cette époque-là, de cette région-là, n'allaient pas... faisaient pas d'études, quoi. Et Paul, lui, est descendu dès la fin du cycle primaire, le certificat d'études, hein, est allé travailler à D'accord. 14 ans. Et il est descendu dans la mine à 16 ans. Mais il n'est pas resté bien longtemps, lui, parce qu'il était de santé un peu plus.
Et c'est dans le nord de la France, donc c'est une mine.
Oui, alors, donc, lui, René, est né à Ruy. Alors, je ne sais pas si on dit Ruy ou si on dit Ruitz, ça fait partie des subtilités, hein. Je ne sais pas, quelqu'un le sait peut-être. Et Paul, lui, est né à Oudin, c'est à côté, hein. C'est dans la région de Béthune, hein. Béthune, Bruyères-Lartois. Voilà, ils sont tous les deux issus d'une famille ouvrière. Le père travaillait à la mine et la mère était à la maison, était de santé un peu plus fragile. Donc elle était à la maison. Enfin bon, elle travaillait. Il faut lire le roman de Mélène aussi, hein, parce qu'on voit qu'elle travaille de toute façon un petit peu beaucoup même, mais elle travaillait pas à la mine. Voilà.
Oui,
c'est prolétariat rural, quoi.
Avant peut-être d'aborder la question du livre, hein, qui vient d'être réédité, de Mélène, est-ce que toi, ton intérêt pour la littérature prolétarienne remonte quand même, est assez ancien, puisque en 1994,
Tu participes à un excellent numéro, avec Dominique Cottel, à un excellent numéro d'itinéraire qui est consacré à Poulaille. Et comment ça s'est fait, cet intérêt pour la littérature?
Alors, excellent, comme tu le dis. Hein. Oui, Sarbonne, c'est beaucoup plus ancien. Hein. Mon intérêt pour la littérature prolétarienne, comme celle de Dominique Cottel aussi, qui est un vieux compagnon à moi, remonte aux années 80 par une association qui s'appelait Le Vent du Chemin et qui a entrepris de rééditer les œuvres complètes de Gaston Couté. Et donc on s'est lancé dans l'aventure dans la fin des années 70, début 80. Et donc au départ c'était Gaston Couté, je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter sur Radio Libertaire, hein, bon, on le connaît, c'est ce poète anarchiste, paysan, bosseron.
Voilà, on a abordé avec Paume Masson dans une émission il y a quelques mois.
Ouais.
Gaston Couté.
Bon, il y aurait des émissions entières à faire là-dessus. Bon, il est encore, ouais. Je ne dirais pas inconnu, mais enfin bon, encore plein de choses à découvrir sur Gaston Couté, plein de choses à dire. Et donc, quand on a fait cette série d'ouvrages en plusieurs tomes, le tome 4 était consacré aux œuvres sociales de Gaston Couté. Et inévitablement, il a fallu, ça c'est surtout Dominique Cottel qui s'est occupé de ça, et qu'il a fallu aller rencontrer Poulaille, parce que Poulaille avait les textes. Et il a fallu aller le rencontrer. Et nous étions à l'époque... Libertaire, enfin nous sommes toujours un peu, enfin au moins on essaye, c'est pas toujours facile. Et donc on a rencontré cet individu, enfin bon, je mets beaucoup de choses là-dedans. Hein. Poulaille, et puis de fil en aiguille, on s'est intéressé à la littérature prolétarienne. Inévitablement, c'est un chemin qu'on ne pouvait pas ne pas prendre, quoi. Et donc, cet article qui a été fait dans l'itinéraire, c'est pas un article sur Poulaille, hein, c'est un article sur Tristan Rémy, qui était un des compagnons de route de littéraire. Pardon ?
Un cheminot.
Qui était cheminot, oui. Ouais. Et donc, on a fait cet article à quatre mains. Mais bon, c'est pas la seule chose qu'on a fait sur la littérature prolétarienne. On essayait un petit peu de s'y intéresser. Et puis, inévitablement, il y avait d'autres gens qui s'intéressaient à la littérature prolétarienne, qui s'intéressent à ce mouvement d'idées. Et là, bah, on rencontre forcément, à un moment donné, les frères Berthelot, enfin bon, la PLO, parce qu'ils avaient fait une revue qui s'appelait le Musée du Soir. Inévitablement, les gens se rencontrent, quoi, forcément, puisqu'on a les mêmes centres d'intérêt, quoi.
Le Musée du Soir, c'est une petite revue, si je me souviens bien, René Hauté, pratiquement,
voilà, ouais,
qui est fait dans les années 50. Hein,
c'est ça, donc il y a eu plusieurs séries du Musée du Soir, c'est un petit peu compliqué. Il y a une série qui était faite en Belgique, il y a une série qui était faite en France, et il y a une partie qui a été rééditée il y a quelques années, qui est en vente à Libre Publico, peut-être aussi au club, je ne sais pas si vous la diffusez
non,
au club.
Non, on n'a pas, je ne savais pas, moi.
Et donc, c'est en vente à Publico. C'était une revue qui était faite par des ouvriers, hein, les ouvriers, des paysans. C'était de la poésie, c'était des nouvelles, c'était des textes d'analyse sur la littérature, sur la peinture, pourquoi pas. Des choses comme ça, quoi, un petit peu universelles. Et c'était fait aussi au moment donné par Ferdinand Tollet.
Oui,
une des premières séries, oui. Et donc les deux frères ont continué à faire ça, quoi, donc, et à s'occuper de ça. Et puis voilà. Comment ça s'est fait. Donc c'est une revue qui...
Et à cette époque, ils font cette revue, alors qu'ils sont toujours mineurs.
Ah oui, ils travaillent tous... Non, je ne sais plus. J'ai pas les dates en tête. Paul pourrait nous aider. Enfin bon, s'il nous écoute, il va bondir, je le sais. Mais bon, je n'ai plus les dates en tête. Mais de toute façon, mineurs ou pas, ils travaillaient.
Oui, c'est ça.
Peu importe, hein, parce que Paul, il était devenu géomètre. Et René avait quitté la mine, était parti à Saint-Étienne. Alors je ne sais plus à quelle époque exactement de leur vie c'était, mais enfin ils étaient quand même travailleurs. Ils étaient salariés, ils faisaient ça sans doute le samedi et le dimanche, quoi.
Et déjà il y avait cette volonté, d'ailleurs choisir le titre Le Musée du Soir, c'est pas
Ah, ça, c'est
en hommage à
Poulaille. C'est en référence à Poulaille directement, oui, bien sûr. D'ailleurs, Poulaille a écrit quelques textes dans le Musée du Soir. Hein, je me souviens avoir travaillé pour les années 54, 54-55. Et il a écrit quelques textes pour présenter ce qu'il appelait, lui, sa littérature prolétarienne, son école. J'aime pas beaucoup dire qu'il y ait une école de littérature prolétarienne, mais enfin, Poulaille a présenté ce qu'il voulait bien présenter dans le Musée du Soir.
Je crois même que Michel Dragon aussi a écrit, qu'on a republié un texte sur l'art, justement.
Oui, on les retrouve un
petit peu. Il y avait un débat.
Tous les gens de cette époque, des années 50-60, c'était une petite revue, hein, c'est pas l'Express, c'est pas Nouvel Obs, mais bon. Elle existait, elle était diffusée, elle était faite avec de la sueur, et voilà, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'en plus, ça, si on fait un petit peu l'histoire de ce courant, ça apparaît à un moment où il n'y a plus autre chose, puisque les revues de Poulaille, maintenant, sont numéro 8-9, c'est à la fin des années 40.
Oui.
Donc, les années 50, ça fait une continuité, quoi.
Oui, ça n'a pas l'importance de la revue maintenant, enfin,
non,
l'importance physique. Hein. Mais ça existait quand même, le feu, c'était pas éteint, quoi.
Oui, parce qu'en même temps, il y a eu les cahiers du peuple avec Ragon,
mais
il n'y a eu que trois numéros, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que dès le départ, c'est un trait d'union aussi. Les frères Berthelot sont un trait d'union avec la période, je veux dire, littérature prolétarienne d'avant-guerre et juste après la guerre.
Absolument.
Et après, quoi.
Oui, ils ont essayé de maintenir vivace la littérature prolétarienne. D'ailleurs, c'est pas par hasard si la PLO s'est formée après. C'est une continuité, une logique, quoi.
Et tu parlais aussi de... c'est les cahiers du vent du chemin. Non, tu en as parlé un peu, non? Parce que Poulaille, je crois, a travaillé aussi dessus, sur comment... non, pas du tout.
Non, enfin bon...
Il n'y a pas une préface ou...
Si, alors, de mémoire, il y a une préface, je crois, dans le tome 4. Voilà. C'est de mémoire. Dans le tome 4 des œuvres de Gaston Couté. J'ai pas vérifié. Je crois que la préface est de Poulaille, effectivement.
Ouais. Et là, on voit justement la jonction, quoi, entre des générations.
Ah oui, non, mais Poulaille était parfaitement au courant de ce qu'on avait fait, hein, des tomes 1, 2 et 3. Et il nous a beaucoup, beaucoup aidé pour le tome 4, hein, en particulier. Enfin bon, la couverture, c'est le truc de la guerre sociale. Je crois que c'est lui qui nous l'avait donné, enfin, qui nous avait donné les dessins. Tu connais la technique de Poulaille de faire des découpages,
de
coller ça sur des cahiers, sur des revues, sur des cartons, sur des choses comme ça. Il gardait absolument tout.
Mm-hmm.
Ouais. Et quand Dominique Cottel a été travaillé chez Poulaille, c'était pour lui un grand bonheur, quoi.
Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour, de votre démarche collective et individuelle.
Alors que je précise bien que dans l'association Le Vent du Chemin, donc qui était une maison d'édition un peu, on n'était pas que deux à faire ça. Hein. Il y a aussi tout un tas de gens qui nous ont aidés. Hein. Je pense en particulier à Jean-Claude Richard qui travaillait beaucoup, beaucoup là-dessus, à Lucien Sirou qui était à Nantes, à Christian Porcher qui était en Corrèze, et à d'autres. Et voilà, c'était un travail d'équipe. Hein. C'était On n'était pas isolés, quoi.
Et puis il y a eu différents thèmes. Il y avait un petit bulletin qui était fait, hein, je crois. Je me souviens sur les dessinateurs de Lannoy, je crois.
Oui, entre autres, oui. Ouais. Un livre sur Delannoy, un crayon de combat.
Ouais,
c'est Lucien Sirou qui avait fait ça, qui était un passionné, qui est toujours d'ailleurs, un passionné de dessin de presse, hein, qui était à Nantes. Il y a eu aussi, on a réédité La Feuille de Zodaxa, hein, qui était un anarchiste individualiste, on a réédité tous les exemplaires de La Feuille, et Les Cahiers du Vent du Chemin, qui était une série thématique de petites brochures. À l'époque, ça se faisait beaucoup, enfin, les diffusions de la propagande, en fait, hein,
oui,
par les brochures. Hein. On avait fait ça, et puis peut-être il y avait un autre poète bosseron aussi, qui s'appelait Maurice Allais, ça s'appelait Par la Grande Route et les Chemins Creux. Donc qui était aussi un poème d'un recueil de poèmes patoisan, mais qui n'avait pas la verve sociale ni la portée de Gaston Couté, hein, qui était tout de même un très très grand
qui a une vie très courte, mais qui laisse une œuvre assez...
Oui, parce que Gaston Couté est mort
30 ans.
Oui, une trentaine d'années, oui.
31 ans, je crois.
1911, on peut...
Ouais, c'est oui. ça.
31 ans.
Voilà. Donc, après cette petite introduction, on va faire une petite pause musicale en écoutant Hubert Félix Stephen.
Leurs chambres blindées, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leur monstre crie trop près de la sortie, ils accouchent de scorpions et pleurent des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers à 4 heures du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme. Les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie. Elles se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur livre et retournent dans leurs bras glacés de pépites. Les dingues et les poumées se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant des rockers. Puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cou. Et lorsque leur tombage joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moins. Ils sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumées arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier moment. Sont des loups frileux au bras d'une autre mort, titillant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, mais maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les poumées sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazours, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, et à l'écoute de l'émission, et pourtant, elle existe, cette littérature consacrée à la littérature prolétarienne, paysanne et sociale. Alors, nous avons commencé à vous présenter, Jean-Pierre a commencé à nous présenter l'association pour la promotion de la littérature ouvrière, l'APLO en sigle. Et l'actualité de cette association, c'est la parution, la réédition d'un ouvrage qui s'appelle Mélène, Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous... En fait, c'est un ouvrage donc à caractère autobiographique qui est écrit à la troisième personne, ce qui permet d'ailleurs une certaine distanciation. Est-ce que tu peux nous préciser dans quel cadre familial et social se déroule cette narration et à quelle époque ?
Alors, bon, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est une autobiographie qui a été... qui a comme toile de fond la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est l'histoire de René Berthelot, sous le prénom de qui s'appelle Mélène dans le roman, c'est un roman, et qui raconte ses années de petit enfant dans sa famille dans le Nord, juste avant et pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pendant que son père était mobilisé. Et donc c'est les rapports avec sa mère, avec sa grand-mère, qui était une véritable, j'allais dire chippie, parce qu'on était à la radio, et je ne sais pas, on peut dire de gros mots, mais qui était une grand-mère mal aimante et maltraitante peut-être, on dirait ça maintenant, très très catholique, et qui envisageait d'envoyer René au séminaire. Et donc c'est l'histoire donc de cette enfance-là. Pendant la guerre, avec son père qui était employé comme manœuvre à la mine et qui était ouvrier du jour, je crois, et qui était et qui picolait, quoi, et qui n'hésitait pas à battre ses enfants, enfin voilà, quoi. Donc c'est cette enfance là cette enfance du Nord qui est racontée jusqu'au moment où René doit descendre dans la fosse. Alors je voudrais quand même tordre le cou à ce qu'on a pu dire, parce que le livre a déjà été réédité aux éditions Dominique Ballant il y a quelques années. C'était dans les années 1987. Et donc ça s'appelait Mélène, mémoire d'un galibot. Et en fait, il ne raconte pas du tout dans ce livre-là, c'est son expérience des mineurs. Hein. Le livre se termine au moment où il va descendre à la fosse. C'est-à-dire son enfance est... On va dire qu'elle est terminée. Sa scolarité est terminée. Et le livre se termine comme ça.
C'est plutôt le cheminement qui le conduit à la mine que la mine en tant que telle. Hein.
Absolument.
Est-ce que tu pourrais bien nous redire le titre ?
Alors, le titre s'appelle Mélène, donc c'est le prénom dont il s'est doté. Hein, donc, c'est le petit garçon.
Hein, d'accord. Et ça s'écrit...
Comme le chanteur Mélène Favennec, M-E, accent aigu, L-A-I-N-E.
D'accord, très bien, merci.
Donc, il y a déjà eu une édition aux éditions Dominique Ballant. C'était sous-titré « Souvenir d'un galibot », ce qui est faux, parce qu'il n'a jamais été question dans le livre de ces années à la mine.
Je pense que c'est un choix peut-être que l'éditeur avait fait, parce qu'en pensant que c'était
plus vendeur. À l'époque, sans demander l'avis de qui que ce soit, avec un dessin qui... Moi, pour avoir rencontré René Berthelot il y a quelques années, donc avant qu'il décède en 2019, ils avaient mis un dessin absolument affreux que René n'avait pas choisi. Et donc il était absolument furieux de la présentation du livre. Bon, le texte, il n'y avait pas touché, bien entendu.
Heureusement.
Mais oui, encore que, ils auraient pu en être capables. Mais enfin bon, ils ne l'ont pas fait. Et donc nous, on a réédité ça l'an dernier avec un dessin d'un puits de mine tout à fait somptueux. Hein. Et c'était réédité complètement. Hein. C'est une réédition. Et il y a à la fin... Il y a eu un glossaire qui a été rajouté.
Oui, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des termes techniques ou des termes de patois un peu qui sont traduits en fait.
Oui, oui. Donc ça a été rajouté et ça a été édité donc aux éditions de la PLO l'an dernier. Quoi.
D'accord. Donc on voit un peu le cadre de l'enfance. Une origine paysanne aussi de la grand-mère hein, en question. Ils viennent pas d'un milieu ouvrier, mais
le roman, lui, ça se passe essentiellement, j'allais dire en ville, pas en ville, mais enfin dans une ville qui est pas nommée d'ailleurs, dans le monde minier. Hein. Donc bon, la grand-mère effectivement a des origines paysannes, mais tout le livre se passe en ville. enfin, dans une petite ville du Nord, hein, qui n'est pas nommée, enfin, une ville relativement importante, je pense. Hein. On peut penser à Ruy, comme on disait tout à l'heure, ou à Oudin, je ne sais pas. Je pense que c'est Ruy, parce que c'est là dont il était originaire. Mais qui a, qui n'est, qui, c'est pas le monde rural. Hein. C'est le monde ouvrier de la mine. Hein. Le père travaillait à la mine et la mère avait, je vous dis, c'était partie du prolétariat, du petit prolétariat de la ville. Quoi. Elle était couturière à un moment donné. Et donc voilà.
La grand-mère est couturière aussi.
Oui, la grand-mère aussi. Elle est couturière aussi.
Elle va travailler. Elle va trouver un job à la journée un peu.
Voilà, c'est ça.
La guerre,
oui, dans une famille.
Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre.
Voilà, c'est ça. Donc, bah oui, parce que beaucoup d'hommes étaient soit emprisonnés. Enfin, bon, pour le monde de la couture, je crois que c'était surtout.
Ouais.
Surtout les femmes, mais bon, on manquait de bras, quoi, puisque les hommes étaient soit mobilisés, enfin, ils ne l'étaient plus, c'est parce ça. Que la guerre était finie, ou ils étaient prisonniers, ou tout simplement tués, enfin bon, voilà, il y avait quand même un peu de travail, puis il fallait bien bouffer de toute façon.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre, à caractère autobiographique, un élément fondamental, qui est un peu en toile de fond, enfin, moi je trouve, hein, c'est... que la grand-mère, en fait, qui est, on va dire, un peu, tu as dit chippie, je dirais odieuse par moment.
Oui, c'était une surprise.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en toile de fond, cette volonté qu'elle a cru à un moment parvenir, avoir une ascension sociale,
bien sûr.
Qui s'est effondrée?
Bien sûr, elle voulait, je vous dis ce que je disais tout à l'heure, elle voulait que René soit... soit curé, par exemple, elle rentre dans le grand séminaire, parce que pour elle, c'était une façon de parvenir. Une façon peut-être aussi de se sortir de cette condition. Quoi.
Mais elle y avait au départ, il y a un petit peu accès, puisque c'est son mari qui est cordonnier, si je me souviens bien, qui lui donne, il travaille nuit et jour, c'est un artisan très...
Oui.
Et il va disparaître, quoi. Il
meurt. Enfin bon, donc après, du coup, elle a plus revenu, quoi.
C'est elle touche du bois, quelque part, elle touche de la main, pardon. Le fait de pouvoir changer de catégorie sociale, entre guillemets, et tout s'effondre.
À travers, oui, c'est ça.
Et ça, ça peut aussi alimenter.
C'est ça, c'est pour son petit-fils, quoi.
Tout, ben, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, il fallait que son petit-fils prenne la relève. Enfin bon, prenne la relève socialement, quoi.
Et c'est pour ça qu'ils ont...
Mais elle se heurte évidemment à la misère sociale, enfin bon, au fait que les études c'était peut-être un petit peu compliqué à... Non pas à faire, enfin, au moins à financer, quoi.
Oui, puis quelque part c'était aussi, je veux dire, fréquent en milieu ouvrier à l'époque, que tu feras tout sauf descendre à la mine, quoi.
Voilà, c'est ça aussi.
Alors, tu feras tout sauf pas aller à l'usine, quoi.
Ce qui n'est pas dit dans le roman, c'est qu'il ne fait pas paraître son frère. Hein, parce qu'il avait un frère, donc René Berthelot, qui a contribué pas mal à la réédition du truc de Mélène. Il n'en parle pas, bon, pour des raisons, à mon avis, qui sont très très intimes, hein, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y avait quand même deux garçons, quoi, dans la famille. Donc ça multiplie. Enfin. Ça fait une bouche de plus à nourrir, quoi, donc de toute façon. Donc il fallait.
Oui, mais ça fait 4 bras au lieu de 2, quoi.
C'est ça, ouais. Comme...
Pour aller bosser
oui,
après.
Oui, ça fait. Oui. Et d'ailleurs, il t'a noté que le deuxième fils, donc René, Paul, n'a pas fait d'études, quoi. René non plus, il a fait 2 ans de collège, hein, je crois. Il a fait 2 ans de collège, il en est sorti. Pour aller à la mine. Et Paul, lui, était directement, directement sur le carreau, quoi.
Oui, alors que René, quand il se retrouve à la mine, il a envie de travailler aussi. À un moment, on a cette impression. Parce que ça se passe mal au collège.
Il ne met pas énormément d'entrain non plus dans ses années de collège. Hein. Tout le monde autour de lui va travailler aussi, quoi. C'est ses copains, parce qu'on le voit à la fin, il descend, bon, tout le monde va travailler, il met pas beaucoup d'entrain, il voit pas très bien ce qu'il pourrait y faire. C'est pas non plus, je pense, dans la tradition familiale, de faire des études longues. Donc,
par contre, le collège va être important, même s'il reste que 2 ans, il va appréhender les classes sociales.
C'est ça.
Parce que lui, pour avoir une feuille de papier,
il faut
qu'il l'emprunte.
Et puis il faut que la mère, il faut que les parents se saignent, hein, pour lui fournir le trousseau, tout simplement, quoi. Et donc ça sera compliqué, ça sera aussi bon, l'acquisition de connaissances aussi certainement, pas seulement, hein, on verra tout à l'heure cette histoire de grenier là, bon, c'est pas seulement à travers le collège qui va apprendre des choses. Bon, de toute façon, après, il avait ce don, donc ce goût de la lecture, et puis ce don d'écrire. Hein,
oui,
parce
oui,
que, de toute façon, hein, ça, on peut pas, on peut pas dire ça. Hein,
dans le témoignage qui est donné, on a quand même l'impression qu'il y a, que le collège a été éprouvant. Même, il y a un professeur qui l'humilie à un moment, oui. Ouais, si ma mémoire est bonne. Et à un moment, il a besoin d'une feuille pour écrire, dessiner. Et son voisin lui dit tu pourras me la... il lui demande si tu pourras me la rendre, et il dit non, et il lui prête pas.
Ah oui,
c'est ça, ça, je crois que ça a éprouvé aussi, c'est peut-être pour ça que à la fin il a plus tellement envie
d'y aller. Des petites humiliations comme ça qui font que qu'on va détester l'école, quoi.
Et donc, à côté donc, du collège, il y a la lecture, ce que tu disais.
Donc oui, il y a cette passion de la lecture, je pense qu'on retrouve chez beaucoup d'écrivains prolétariens comme Poulaille, par exemple. Hein, on le citait, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Moi aussi, des gens comme Cavanna, je pense aussi beaucoup à Cavanna, parce que bon, pour moi, c'est quelqu'un d'assez important, qui avait cette passion de lire, quoi, qui lisait absolument tout ce qui lui tombait sous la main, quoi. Et on voit en particulier dans les débuts du roman, dans cette scène du grenier où il va se réfugier pour prendre des vieux trucs qui traînent dans les malles, des dictionnaires, des atlas, des encyclopédies, des revues, des choses comme ça, et qui va sourire de ça, quoi. Entre autres. Bon, ensuite, après, ça sera...
Et ce grenier qui est essentiel, est-ce que tu peux nous lire quelques passages?
Oui, je vais lire un petit passage. Donc il est donc Pélin, on va l'appeler comme ça, et dans la maison familiale, il y a un grenier, donc il y a des choses qu'il faut découvrir, comme dans les greniers des vieilles maisons, quoi, j'imagine. Moi j'ai pas connu ça, mais bon, toi tu pourras nous en parler. Donc chaque planche, chaque dessin l'absorbait, le soulageait un peu dans sa grande soif d'ailleurs. Sous les pavillons en couleurs bien alignés dans l'ordre alphabétique de leur pays, il épelait des noms à consonance un peu rugueuse qui évoquaient de lointaines et impossibles aventures. La feuille tournait d'un doigt, sans hâte, léger et précautionneux pour ne pas fatiguer le dos. Il cherchait à se représenter les sportifs guindés de la planche, des agrès, évoluant dans quelques gymnases austères. Ou bien alors, attardé devant le Boréus, s'étonnait-il qu'un évroptère pût être aussi monté sur pattes. Et voilà qu'il le comparait aux paysans landais du Galouédec, des communales de France et de Navarre. Ou encore... rêvait-il devant le Bouvreuil inscrit dans un carré, un castor figé au bord de l'eau, une branche entre les pattes, une carpe aérienne que le metteur en page avait émergée au ciel d'une colonne. Ou enfin, ayant sauté le tombeau de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, il se retrouvait face à une roussette pendue à une branche comme une veste à une patère. Lassé des tribus en croix ou des sternes guindées, il cherchait un sourire sur le portrait farouche d'un bantou, d'un quichua ou d'un sac à lave. Ainsi s'évadait-il du quotidien insupportable que la passion d'Hilaire pour le gros vin, qu'il avait mauvais, rendait infernal.
Hilaire, c'est son père.
Alors, Hilaire, c'est son père. Hein. Donc, son père s'appelait Maurice, mais il l'appelle, dans le roman, il l'appelle Hilaire.
Voilà.
Donc, c'est un refuge à la fois par rapport
c'est
à son
ça,
père.
C'est un refuge par rapport à son père, par rapport à. Bah c'est
par rapport à tout, quoi.
C'est jeudi qui va aller nourrir. Enfin bon, entre autres, hein, il va aussi aller courir un petit peu avec les copains des corons, mais c'est dire aussi l'importance qui. Parce que c'est lui qui écrit ça, c'est comme son autobiographie, c'est ses souvenirs directement. Hein.
Mm-hmm. Et c'est. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le père, c'est aussi un personnage, et il y a des nuances aussi. Il est à la fois, effectivement, il boit, il peut lui donner une correction, oui. Mais il a aussi une approche assez à l'écoute quand même, malgré tout. Il est un petit peu fier de ses résultats à l'école, il y a en même temps une ambivalence.
Oui, mais ça l'empêche.
Oui, oui.
Ça l'empêche, il est pas. On peut dire que René Berthelot, enfin bon, Mélène, on va dire, voilà, on revient à ça, était très très mal aimé, quoi. À part peut-être par un oncle, donc qu'il a rencontré pendant une vacance, hein, je me souviens, donc il était parti en vacances à la campagne, on va dire, il a rencontré un grand-oncle. Et ça s'est merveilleusement bien passé avec ce gars-là. Et donc ils sont passés une huitaine de jours absolument, absolument idylliques. Et il en décrit des pages et des pages. Enfin, bon,
c'est une bouffée d'oxygène.
Ouais, absolument.
Ouais. Et c'est intéressant. C'est
un très beau moment. Ouais.
Ça, c'est, ce moment-là, eh bien, oui, effectivement, et puis d'autres. Mais ce qui est intéressant sur le grenier, c'est que, en fait, on s'aperçoit, et moi je me transpose parfois à la période dans laquelle on vit, c'est qu'aujourd'hui, les greniers, on est quelques-uns. Il ne fait pas référence, ça m'a un peu surpris, mais aux bibliothèques. Genre, je ne sais pas s'il y avait des bibliothèques de mineurs. Moi, je sais que j'ai connu les bibliothèques SNC-Cheminot. Mais le grenier, c'était un endroit qui permettait aussi de jouer, qui était de lire, de découvrir, un peu secret d'ailleurs, où les enfants aimaient bien aller, et où aller pour se réfugier, hein, ou pour jouer. Et en fait, dans les maisons d'aujourd'hui, c'est un espace qui n'existe plus. Il y a ce qu'on appelle des combles.
Des combles aménageables.
Qui sont aménageables et où tu es courbé en deux, même pour un enfant. Et c'est aussi un lieu de transmission, en fait, qui disparaît, quoi. Et c'est vrai que dans le texte de Mélène, c'est un passage qui est assez fort comme réaction à son univers, quoi.
Oui, enfin, c'est pour lui, c'était... On voit, enfin, c'était dans tout le début du roman, d'ailleurs, c'était extrêmement, extrêmement important, cet endroit-là.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de la perception à travers son itinéraire des antagonismes de classe, hein. J'ai commencé un peu à l'évoquer avec l'école, avec le collège, hein. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui va demeurer dans l'homme que deviendra l'auteur, quoi.
Ah bah oui, parce que... Bon, inévitablement, enfin bon, quand il va rencontrer le monde le monde ouvrier, il va plonger en plein dedans dans le monde ouvrier à 14, enfin 16
oui,
ans.
Oui, c'est ça, c'est ça.
À 16 ans, donc forcément, ça, comme on dit, ça va lui forger le caractère. Hein. D'ailleurs, il sera, une fois qu'il aura quitté la mine, donc René Berthelot va partir à Saint-Étienne. Pour aller travailler à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Il sera syndicaliste à la CFDT. Il était libertaire dans l'âme, hein. De toute façon, ça n'a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Et donc, il sera syndicaliste à la CFDT à Saint-Étienne, à l'époque où la CFDT pouvait accueillir encore des libertaires. On pouvait peut-être encore parler d'autogestion à ce moment-là. Et donc, il fera partie. Oui, il y a bien longtemps. Oui. Donc, il fera partie de cette génération de syndicalistes qui sera profondément déçu après par l'arrivée de Nicole Notta en particulier. Et là, il prendra sa retraite après. Mais il était resté, effectivement, il avait une sensibilité, de classe absolument indéniable. Hein. On le sent très bien dans ces.
Dans deux livres, il y a des moments où il le raconte. C'est que sa grand-mère, elle a gardé quand même des relations, des femmes qui sont d'un milieu un petit peu plus élevé.
Chez lesquelles elle va
travailler. Et elle l'emmène avec lui. D'ailleurs, il faut qu'il s'habille bien. Hein. Il n'est pas question qu'il se fasse repérer. Il faut qu'il soit propre, etc.
Oui, elle l'emmène. Tout est dans le paraître.
Et ses réactions aux mômes sont... Là, il est confronté. Il a droit à... c'est pas du thé, mais enfin, il a droit à une petite réception, on va dire. Sa grand-mère est très fière, parce que... elle est très fière d'avoir des amis qui sont bien. Je sais pas si j'arrive à le traduire. Et le mob, il se rend compte de ça. Un peu comme au collège.
C'est pas les gens comme nous, c'est les gens à qui il faut ressembler, puisqu'on s'habille bien. Quoi. Donc, forcément.
Et lui, il voit bien la différence avec son vécu.
Il n'est pas à l'aise, d'ailleurs.
Il n'est pas à l'aise, voilà.
Il est pas à l'aise,
parce qu'elle le met dans un beau fauteuil, si je me...
Oui, c'est pas du tout son monde.
Ça, c'est...
Non, il est indéniablement du monde ouvrier, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein.
Et je crois que des fois, il y a dans des itinéraires, chez des gens, c'est des plus que des livres, des fois. C'est des sensations, des perceptions, des choses, des vécus qui enracinent peut-être plus profondément que des engagements qui sont basés sur les lectures. Ça ne veut pas dire que les lectures sont... Il faut opposer les deux.
Mais en fait il ne parle pas de ces lectures. Hein, dans le roman, il parle de ces lectures. Bon, on évoquait tout à l'heure avec les encyclopédies, dictionnaires, mais le livre n'est pas présent dans le
normalement, dans le monde. Il n'était pas présent. Oui.
Donc, un peu à l'école, mais bon, c'est des livres scolaires. Quoi. Bon, c'est après hein, donc qu'il a pioché dedans. Hein. Une fois qu'il a commencé de travailler.
S'il est parti du Nord pour aller à Saint-Étienne, qui à l'époque était effectivement une grande ville ouvrière, hein, effectivement, là, je pense qu'au niveau des rapports de classe, il a dû être... ça a dû continuer à l'éduquer, à lui donner une conscience de classe, parce que c'était quand même une des grandes villes ouvrières de France à l'époque.
Bien sûr, voilà. En plus, bon, la manufacture d'armes...
Et puis la manufacture d'armes,
Il y a beaucoup, c'est une grande pourvoyeuse de main-d'œuvre.
Bien sûr.
Là, il a côtoyé certainement, pas fouillé non plus, mais bon, il a côtoyé, c'est sûr, des syndicalistes, des gens qui avaient une bibliothèque, ou même dans les bourses du travail, peut-être encore.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai rejoint Saint-Étienne dans les années 70 et il y avait une bourse de travail très très active, bien sûr, et très très forte en fait.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que un de nos invités récents, Paul Masson, qui a écrit sur Gaston Coutet, il a fait l'itinéraire inverse, c'est-à-dire qu'il est né dans le milieu minier de Saint-Étienne pour ensuite aller à Lens. Bon, et il a écrit sur Gaston Coutet, donc on voit des parallèles. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale en écoutant Yves Simon, dont le titre est Paris 75. Merci Frédéric.
Pour avoir droit à respirer l'air pur qu'empeste tout ton quartier, t'as payé.
Bon, donc on va continuer. Il y a un petit souci technique, mais qui va, je pense, être résolu comme d'habitude.
Par Frédéric, qui est en train de s'activer.
Voilà. Sinon, on peut continuer à... C'est bon ? Ok. On va continuer donc à évoquer un autre aspect, tu as dit tout à l'heure, qui était important, c'est que à un moment donné, donc, y a la guerre qui arrive. Hein. Oui. C'est pas dès le départ du livre. Et son père est mobilisé. Bon, on y reviendra tout à l'heure, puisque Frédéric a encore fait des miracles, et on va pouvoir écouter Yves Simon, Paris 75.
Voilà.
Il est tard. Paris, c'est beau. Des Maliens au petit matin change sa peau. Premier jukebox, premier bistrot. Paris, métro. Des hommes endormis rêvent sous les néons. D'étoiles nations. Les angles des avenues, les boutiques ont été flingués par des banquiers. Paris, le fric. Sur la place Saint-Michel, un vendeur de bagues gabonais a été flingué par des types en civil qu'on avait vus avant avec des policiers. Place de la Sorbonne, des touristes hommes et femmes contemplent le vieux pavé de Paris, recouvert de macadam, dans un bistrot du boulevard Saint-Germain. Un avocat algérien a été victime de ce qu'on appelle une bavure à la préfecture. Paris, Paris, 75, place des abbesses, ta tendresse reflète les oiseaux gris de Paris sous la pluie. Il est tard, ou il est tôt. Paris, Paris, c'est beau. Des Maliens au petit matin change sa peau.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre, qui nous a parlé, qui nous parle de la réédition par les éditions de la PLO, Association pour la promotion de la littérature ouvrière, du livre de René Berthelot, Mélène. Alors, nous étions en train d'aborder la question dans l'enfance de Mélène, la guerre qui soudain fait éruption dans la vie quotidienne et qui va se traduire par la mobilisation de
du père, donc du père. Mobilisation du... Il faut dire que la guerre, elle est présente je veux dire pratiquement dans toutes les pages, hein, enfin du livre, hein. C'est des privations, c'est qu'il n'y a plus d'hommes à la maison. Donc s'il n'y a plus d'hommes à la maison, ça veut dire qu'il n'y a plus de salaire qui entre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et puis c'est l'incompréhension aussi de ce qui se passe. Parce que bon, il faut dire que dans le Nord aussi, l'occupation était particulièrement longue et je pense particulièrement pénible. Donc c'est pendant ces années-là que se situe enfin toute la trame du roman, puis se situe de toute façon toute son enfance, hein, toute l'enfance de Mélène. Hein,
ouais, c'est aussi comment se chauffer, alors qu'ils sont au milieu du charbon, il y a les privations, c'est pas qu'alimentaire.
Bah oui, parce que le charbon, il partait dans l'Est, hein, je pense, ouais. Hein, et puis il partait chez ceux qui pouvaient se l'offrir. Eux, ils ramassaient des escarbilles, enfin, il y a tout un chapitre là-dessus pour justement à la recherche des choses qui pouvaient encore brûler presque une deuxième fois, quoi. Ouais. Pour être dans les corons, parce que bon, c'était la vie dans les corons, bah, il faisait froid, voilà, tout simplement. Il fait froid l'hiver, donc il faut se chauffer. Bon, bah, quand on est pauvre, qu'on n'a pas les moyens, bah, on essaie de par tous les moyens, donc je répète, de trouver une solution à ça, quoi. Et c'est souvent pénible, hein. On envoie les gamins honteusement pour ramasser ce qui traîne.
Même du crottin de cheval, hein, à un moment.
Oui, c'est ça.
Il y a un moment, il fait référence à ça. Hein. Je ne sais plus si c'est pendant la guerre ou un peu avant.
Oui, je ne sais plus, c'est pour se chauffer, mais enfin, au moins, il allait ramasser le crottin de cheval.
Ouais, ouais. Il y avait ces exemples-là, quoi. Mais c'est vrai que les guerres dans les régions du Nord, globalement, c'est en même temps c'est l'occupation.
Bon, et en plus, c'était pas la première. Hein.
Ouais.
Oui, c'est ça. En plus.
C'est la deuxième, c'est-à-dire que c'est des gens qui. Et en même temps, tu as des fois les exodes intérieurs. Des gens qui partent avec le baluchon. Hein.
C'est... Il les voit passer d'ailleurs à un moment donné. Hein. Il y a une scène, à un moment donné, il voit des gens qui viennent de Belgique et qui sont chassés par par l'armée allemande, quoi. Donc qui passent dans le Nord, ils les voient passer et ça fait aussi partie d'une une scène du roman. Donc, comme il est né, je l'ai dit tout à l'heure, Donc en 39, enfin en 40, il a 7 ans. Quoi. Donc on a encore des souvenirs assez vivaces. On a déjà des souvenirs assez vivaces de cette période-là, d'autant plus qu'elle était quand même assez dure. Quoi.
Et tu fais référence à la Belgique. C'est aussi intéressant parce qu'il y aura aussi dans leur histoire, dans les revues qu'ils vont faire, les petits bulletins, des rapports avec des ouvriers et des mineurs, notamment de Belgique.
Hein. Oui,
Je crois qu'il y a Constant Malva
qui était mineur, donc qui est aussi partie de cette école, j'allais dire, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, comment dire autrement, de ce courant de littérature prolétarienne qui a écrit Manu au jour le jour, l'histoire de ma mère et de mon oncle Fernand, qui sont les témoignages de la vie des mineurs, de la vie dans les corons,
Il y avait une proximité.
En Belgique, dans le Borinage, je crois.
Dans le Borinage, Donc Borinage, et ce qui est intéressant, c'est, enfin bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir ici, mais il y a eu vraiment aussi toute ce que tu appelais un courant, un groupe d'auteurs prolétariens en Belgique, quoi. Mais avec aussi des mineurs, quoi. Hein, vraiment,
beaucoup. Bah oui, c'était.
Et il me semble que dans le Musée du Soir, il y a des textes de Constant Malva.
Il y a beaucoup de textes de Constant Malva, de Fernand Tellet, d'Hector Clara aussi, qui était mineur, en particulier Clara. Sur les chevaux. Ouais. Ben, j'ai vu des articles assez. Enfin, des petites nouvelles où il parle beaucoup des chevaux qui étaient justement dans la mine, qui étaient chargés de tirer, de tirer les wagons, et des approches qu'il y avait entre les hommes qui menaient les chevaux et les animaux eux-mêmes, quoi. La complicité qu'ils pouvaient avoir, et puis ils considéraient les chevaux comme étant des. Comme des ouvriers, enfin bon, parce que comme ça,
c'est ça.
C'était ça en fait.
Mais je crois que les chevaux, en plus, ils devenaient aveugles.
C'est ça,
ils restaient en bas. Hein.
Ouais. Ils restaient
dans le noir, ils étaient aveugles.
Ils étaient aveugles, hein. C'était les textes. Voilà. Donc, on a la guerre, on a vu un peu le rapport au collège qui va avorter pour X raisons. Et en fait, la trajectoire de Mélène. Ça va être donc de.
Ça va être la mine. De descendre dans la mine, c'est inévitable. C'est génétique, mais c'est presque ça, quoi. On ne pouvait pas faire. Quand on venait de cette classe-là, de ce niveau-là.
Oui, c'est ça. C'était
lié à ça. On ne pouvait pas faire autrement. Et j'y descends. La mère a peur, évidemment. De ce qui va se passer. D'ailleurs, j'avais retenu un article du Canard Enchaîné, peut-être un petit peu long, à propos d'une émission qui avait lieu sur France 2 au mois de décembre dernier, où il parlait d'Aimable Patin. Donc c'était le mec qui s'appelle le gars s'appelle comme ça, et il dit avant la première descente, quand la maman vient vous réveiller, vous n'osez pas lui faire voir que vous avez peur. Elle aussi a la peur. Et c'est exactement ça pour ce qui se passe pour Mélène. Sa mère lui prépare son casse-croûte qui va descendre, et le premier matin, il se passe ce qui se passe. Donc là, c'est la fin du livre, hein. Et donc je peux peut-être vous en lire un tout petit morceau. Pendant ce temps, Lydie, c'est sa mère, hein. Lydie préparait le briquet, donc le casse-croûte, hein, les galibots, 4 tartines collées 2 à 2 par le saindoux et 6 cornichons. Mélène n'aimait pas les cornichons dont le vinaigre lui emportait le palais. Mais il en mangerait à la pause de 10 heures pour imiter Fernand, qui n'avait d'ailleurs pas le choix. Il en mangerait avec cette même résignation qu'il mettrait à travailler à la mine, qu'il n'aimait pas. La rue s'animait. Sur le trottoir, quelqu'un heurta du pied un pavé et lâcha un juron affreux. Puis il y eut une suite de pas, un groupe sans doute, des brodequins ferrés raclant le sol, lentement, lourd de la lassitude de toute une carrière. Les chaussures plus légères aussi. Il y eut encore le pas de course d'un retardataire. La cordée n'attend pas, on descend à l'heure ou on retourne chez soi. Vaguement inquiet de tout et de rien, Mélène consulta le réveil matin que Lydie avait descendu avec elle. Du dehors, on secoua la clenche calmement, ce qu'il fallait pour être entendu de la cuisine, sans réveiller personne. Sans un mot, faisant l'effort d'un impossible sourire, Mélène, son baluchon sous le bras, suivit Fernand, se sachant parti pour suivre tous les Fernands du coron, tous ceux de la cité, tous ceux de la mine. Donc voilà, Mélène qui descend.
La conclusion de
c'est, la fin du
livre. Et Fernand, c'est un plus ancien qui est déjà.
Oui, Fernand, c'est un de ses amis, donc qui suit exactement la même, le même chemin que lui. Quoi.
Alors, comment on peut se le procurer? Bon, la Publico, je sais.
Alors, c'est en vente à Publico. Sinon, c'est, on peut se le procurer sur le site de la PLO.
D'accord.
Toi aussi, je crois que tu en
nous, on diffuse au niveau de la
réserve. Hein, par,
oui, au
par
niveau
le
de
ouais. Alors, ça coûte, je vais vous dire, le plus. Dans les 22 euros. Voilà. Pas cher.
Voilà.
C'est fait à la main, il faut dire. Hein, c'est René Berthelot, c'est Paul, pardon, qui s'occupe de ça, qui fait ça un petit peu à la demande et qui met beaucoup de bonne volonté, beaucoup de courage pour les imprimer.
D'accord. Et vous avez des projets en matière d'édition?
Alors, il y a quelques projets, oui. Alors, il y a Les Navets du Diable, hein, qui est un autre roman de René Berthelot. Il y a La Passion d'Amant, parce qu'il n'a pas écrit que Mélène, hein, René. Voilà, je sais qu'il y a sur le chantier des nouvelles éditions des Musées du Soir, un recueil de contes aussi, et puis, écoutez, c'est déjà pas mal. Pour
Chaque jour suffit sa peine.
Chaque jour suffit sa peine, donc ça sera sans doute pour la fin de cette année, Les Navets du Diable, ou début d'année prochaine, mais bon, voilà, il faut y travailler, il faut s'y mettre, hein. On est tous un petit peu égaillés partout. Hein. Il y a des gens à Bergerac, il y a des gens à Lyon, il y a des gens en Bourgogne. Donc il faut un petit peu fédérer tout ça et puis avoir un peu de bonne volonté, avoir du temps.
Alors je te remercie Jean-Pierre. Simplement, je signale que pour ceux et celles qui souhaiteraient approfondir leur connaissance de cet ouvrage, il y a dans le numéro de fragment numéro 7 qui devrait, en toute logique, être disponible début juillet, une étude de Philippe Jeunesse, qui est assez copieuse, et donc qui sera publiée. Donc, nous allons faire une nouvelle pause musicale avant de descendre dans une grotte ensuite.
Okay, merci à toi aussi, hein, pour m'avoir reçu.
C'était très si intéressant. Ouais.
Merci.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu sauf les aveugles, bien entendu.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature ». Alors, qui est réalisé par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale. Mais, comme nous l'avons déjà évoqué, comme nous l'avons déjà dit, et comme nous en rendons compte dans notre revue qui s'appelle Fragments, nous abordons la littérature, mais aussi toute forme d'expression artistique qui vient d'en bas. Hein, on a abordé la gravure. Dans le prochain numéro, on va aborder la céramique. Et aujourd'hui, on va revenir sur une expression qui vient d'en bas, mais qui vient de loin aussi, et qui concerne la grotte Cosquer entre Marseille et Cassis. Et pour bien montrer que nous travaillons aussi dans une continuité, hein, bien sûr, qui est adaptée aux conditions d'aujourd'hui, dans les archives Poulaille du centre de Cachan, sur ce centre, nous y reviendrons peut-être en juillet ou en août, puisque normalement, on doit pouvoir tenir nos émissions. Dans les archives de Poulaille, il y a des coupures de presse qui concerne la grotte Lascaux. Alors Michel, je te passe la parole.
Oui, bonjour à tous déjà. Donc oui, effectivement, on va parler de la grotte Cosquer qui est dans le parc national des Calanques, entre Marseille et Cassis. Et c'est un trésor que la mer a gardé pendant des millénaires jusqu'à sa découverte en 1991, ce qui est tout à fait récent. Donc, la mer a gardé tout ça 10 millénaires exactement depuis la fin de la dernière ère glaciaire, durant laquelle la Méditerranée nous a caché un grand bout de notre histoire, en fait. Parce que dans les entrailles de ces falaises, au fond d'une grotte, certains de nos ancêtres, des femmes et des hommes, ont laissé sur les parois des traces de leur passage, des peintures, des gravures et leurs mains imprimées sur la roche. C'était à une époque où la Provence était une grande steppe froide et où la mer était encore très loin. Puis le climat a changé, les glaces ont fondu et la montée des eaux a condamné le passage de cette caverne qu'empruntaient nos ancêtres à l'époque. Il a donc fallu attendre 100 siècles avant que l'homme n'ait les moyens de retrouver les traces de ses ancêtres. Avant qu'Henri Cosquer n'ait la curiosité et le courage de remonter sous l'eau, par 40 mètres de fond, un long boyau que 30 000 ans plus tôt, les premiers artistes de l'histoire de l'humanité avaient emprunté à pied. Et c'était effectivement les nouveaux artistes, puisqu'à l'époque, la peinture remplaçait l'écriture et que l'écriture égale la peinture. Découverte le 9 juillet 1991, la grotte Cosquer est la seule grotte ornée sous-marine que l'on connaisse au monde. Donc c'est une grotte très très importante en fait. Par un trou de 1,30 m de haut et 3 m de large, suivi d'une galerie de 116 m de long, on fait un voyage dans le temps de 33 000 ans. À cette époque, la grotte était accessible à pied, en fait. Henri Cosquer, déjà pour parler de lui, puisque la grotte porte son nom, Henri Cosquer est un marin, scaphandrier, moniteur de plongée, patron d'un club de plongée à Cassis. En fait, c'est un travailleur de la mer, non pas un travailleur rural, mais un travailleur de la mer qui passe son temps dans l'eau. Fin 85, près du cap Mordiou, il a commencé à explorer l'entrée de la grotte et s'est aventuré dans la galerie très prudemment parce que la vase qui tapisse les murs représente un danger car si on la touche, elle s'élève des parois et elle enlève toute visibilité dans le couloir. D'ailleurs, plus tard, trois plongeurs vont trouver la mort de cette façon-là. Ils ont voulu rentrer dans la grotte et dans le conduit. Et avec leur bouteille, ils ont touché les parois du conduit. Ça a soulevé toute la vase. Et en fait, ils n'ont jamais retrouvé la sortie. Donc, ils sont morts noyés dans le conduit. Donc, c'est vrai que quand on parle de la grotte Cosquer, il faut peut-être dire aussi là tout de suite. D'abord, on ne peut plus y aller, mais surtout, si vous avez là des gens qui aiment la pêche sous-marine et qui écoutent, c'est pas la peine d'aller dans cet endroit-là qui est extrêmement dangereux. Voilà. Donc, ce boyau sur 116 mètres monte sensiblement et s'ouvre soudain sur une grande vasque immergée dans une grande salle avec des énormes stalactites, donc de 7 mètres de haut et 30 mètres de diamètre, ce qui est énorme. Et Henri Kosker, quand il découvre ça, est stupéfait parce que tout est blanc, et tout est blanc comme de la neige, comme un temple grec. Et c'est, il est très très impressionné par cette découverte. Donc il y a une grande salle de 70 mètres sur 55 mètres, puis une deuxième salle avec un puits très profond. Le bestiaire, qui est représenté dans la grotte Kosker, témoigne de la présence d'Homo sapiens. Donc on remonte au paléolithique, c'est-à-dire très très loin, effectivement. À l'été 91, Henri Kosker, il découvre ça en 85, puis pendant quelques années, bon, il a autre chose à faire, il abandonne un peu la grotte, il y retourne pas, mais à l'été 91, il reprend l'exploration et tire là un fil d'Ariane dans la galerie qui lui permet justement de pas se perdre dans la vase ou de mourir noyé et de pouvoir retrouver la sortie de la grotte. Il découvre le contour d'une main, puis des dizaines et des dizaines de peintures, donc des mains rouges, des mains noires, des bisons, des chevaux, des oiseaux, des bouquetins, des cerfs, des félins, et alors le plus étonnant, mais qui remonte à cette période, hein, deux phoques et trois pingouins. Parce que effectivement, comme on était à l'ère glaciaire, la Méditerranée était une banquise, en fait. Hein. Donc on retrouve aussi des phoques et des pingouins. Et un banc de méduses, qui témoigne justement qu'on était dans un paysage maritime pas très loin. Et il dit dans un paysage minéral exceptionnel et très beau. Évidemment, hein, c'est resté fermé pendant des millénaires, donc ça n'a pas été contaminé par l'homme. Donc les animaux, les peintures des animaux sont datées de 19 000 ans, soit 1000 ans avec la avant la grotte Lascaux, qui date, elle, de 18 000 ans. Les mains sont datées de 30 000 ans, donc les premières choses qu'ont fait nos ancêtres, en fait, ont été de dessiner leurs mains. Hein. Et 11 000 ans séparent les différentes période d'occupation de la grotte, c'est-à-dire que c'est un lieu où nos ancêtres sont allés pendant 11 000 ans, et c'est un lieu qui a été occupé pendant toutes ces années-là, ce qui est quand même assez, enfin, je veux dire, émouvant et extraordinaire. Donc, elle a été fréquentée sur le, au total pendant 14 000 ans. Et comme point de repère, on peut dire que, par exemple, Jules César n'a que 2 000 ans, ce qui est quand même beaucoup plus récent. 21 ans après sa découverte, donc, la grotte a été entièrement numérisée pour faire une copie de taille réelle, pareil que pour la grotte Lascaux et la grotte Chauvet, par des artistes plasticiens contemporains, cette fois-ci, et la restitution est d'une grande précision. En effet, la mer de nos jours monte et l'eau salée efface toutes ces peintures. Donc il faut absolument protéger tout ça, et la grotte Kosker sera noyée d'ici une dizaine d'années et toutes ces peintures seront effacées. La pollution aussi agit, parce que bien évidemment on laisse nos traces d'hommes contemporains, et dans la grotte on sent parfois les égouts de Marseille et on peut retrouver des détergents et des polluants. Depuis 2022, la grotte, la copie de la grotte est ouverte au public. C'est celle que j'ai visitée, donc, sur le port, le vieux port de Marseille, à côté du musée MoMA. La numérisation s'est effectuée de 2016 à 2021 pendant 5 ans, en recopiant tous les reliefs en 3D, puis la reconstitution est à base de polystyrène et de béton projeté. La visite se fait assise au bord d'un module d'exploration qui nous emmène sur des rails et qui nous balade dans toute la grotte où on voit toutes les peintures. Et par contre, c'est à partir de 3 ans, parce qu'il ne faut pas faire de bruit si on veut écouter le commentaire qui est donné pendant la visite. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter le podcast de, sur France Inter du mardi 11 avril 2023 qui s'appelle La Grotte Cosquer, 2. L'histoire engloutie.
Très bien, Michel, merci pour cette intervention.
Et je vous recommande vraiment la visite. Moi, je l'ai faite et c'est très, très émouvant.
Une invitation au voyage dans le temps. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est la reconstitution donc, qui montre à la fois ce travail sur des données brutes et le travail de gens aujourd'hui.
Il y a en même temps les artistes de l'Homo sapiens, et puis il y a les artistes contemporains. Donc ça fait une collusion et une trajectoire sur 33 000 ans qui est
magnifique. Et qui permet de préserver une mémoire. Quoi.
C'est et qui préserve la
sinon,
mémoire.
Sinon, elles sont disparues.
Voilà.
Alors, nous allons terminer cette émission par quelques informations. Alors, tout d'abord, pour ceux qui piétinent, Fragment, le numéro 7, sera bientôt dans les bonnes librairies, et à Publico en particulier. Et par ailleurs, on va un peu élargir notre diffusion, notamment hors de la région parisienne, avec des nouveaux comporteurs, hein, parce que je rappelle que c'est le choix autogestionnaire que nous avons fait de ne pas passer par un diffuseur-distributeur, c'est-à-dire que il y a des personnes, des abonnés, des adhérents de notre association, parce qu'il y a les deux, hein, on a une association avec des adhérents, on est à peu près 40, hein, et des abonnés qui prennent des relais et qui prennent la revue ou qui prennent le premier livre qu'on a édité qui s'appelle Ligne de front dont on a parlé la dernière fois avec François Lebert et qui vont essayer de diffuser autour d'eux dans des librairies locales ou des fois des épiceries librairies ou des cafés littéraires, hein. Un camarade, je salue Yves à Morlaix en Bretagne qui va le relayer encore plus le numéro 7, des contacts un peu dans différents coins. Donc ça, c'est important parce qu'il nous semble être cohérent que notre travail soit fait de manière autogérée. Alors, en point d'actualité et de travail pour les mois à venir, nous préparons pour le mois de juin 2024 un colloque consacré à Michel Ragon qui aura lieu normalement sur 2 jours. On est en train de finaliser tout ça avec un certain nombre d'intervenants, donc on y reviendra vraiment plus en détail, mais c'est vraiment un projet qui nous mobilise. Et dès cet automne, on devrait avoir édité notre deuxième ouvrage, qui est une réédition d'un livre de Michel Ragon qui s'intitule Nous étions 17 sous une lune très petite, qui est un livre que Michel Ragon a publié en décembre 68, qui est un peu passé sous les radars. Et le titre est extrait, c'est une phrase de Che Guevara qui est extrait de son journal de bord et qui est pratiquement dans les dernières pages, quelques jours, quelques heures avant qu'il ne se soit liquidé par l'armée bolivienne et ayant été vendu par un des paysans pour lequel il pensait pouvoir mobiliser. Voilà donc un point important. Enfin, je voudrais recommander un livre, mais j'espère qu'on aura l'occasion là encore d'y revenir, mais on l'a abordé dans le numéro 6 puisqu'on a eu droit à quelques bonnes feuilles, hein, dans le numéro 6 de Fragments. Le titre, c'est « Tête haute » de Cathy Itak. L'éditeur, c'est « Talent haut », hein, et c'est un roman qui met en scène la lutte essentielle des sardinières, hein, de Douarnenez en 1924, si ma mémoire est bonne. Et c'est la narration de cette lutte fondamentale, une des premières luttes des luttes féminines. Donc voilà, j'espère que nous pourrons en reparler avec l'autrice dans les mois qui viennent. Voilà.
Oui, très belle chanson sur les sardinières.
Très belle chanson, tu dis ?
Oui, sur les sardinières, sur la lutte des sardinières. J'essaierai de... Oui.
À ce moment, on pourra l'évoquer, mais vraiment, c'est un ouvrage qui vaut le détour, et je pense qu'il est déjà à Publico, j'en suis même certain. Alors, nous allons nous séparer pour aujourd'hui en écoutant La matinée se lève de Jean Ferrat et Christine Sèbre. Voilà, rendez-vous normalement en juillet, si tout le monde est présent. C'est à toi que je pense, Frédéric. Voilà, au revoir.
Au revoir et merci.
La matinée se lève, toi debout, il est temps.
Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve.
Le soleil nous inonde, regarde-moi ce bleu.
Attends encore un peu, je refaisais le monde.
Lève-toi donc, respire, quel printemps nous avons.
J'efface 1000 avions, une guerre, un empire.
Faut labourer la terre et tirer l'eau du puits.
Changer la vie et puis abolir la misère.
Regarde l'alouette, il est midi sonné.
Le monde abandonné, je le donne au poète.
Allons, viens dans les vignes, le soleil est très haut.
Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe.
Des vendanges, je suis pris d'un désir étrange, né du souvenir des païens, né du souvenir des païens. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir, défaisons cette folie. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie. Parmi les grappes qui s'étalent comme une jonchée de pétales, ô ma bacchante, roulons-nous. J'aurai l'étreinte rude et franche et les tresseaux de ta chair blanche écraseront les raisins doux, écraseront les raisins doux. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir, défaisons cette folie. couchons ce soir tous les deux sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie. Sous les baisers et les morsures, nos bouches et les grappes mûres mêleront leur sang généreux. Et le vin nouveau de l'automne ruissellera jusqu'en la tonne, d'autant plus qu'on s'aimera mieux, d'autant plus qu'on s'aimera mieux. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir, y faisons cette folie. Couchons ce soir tous les deux sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie.
Hop. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons parler aujourd'hui dans notre émission de l'échec de l'armée française dans sa lutte contre le djihadisme au Mali et au Burkina Faso. Mais nous allons parler aussi des bavures militaires dans cette guerre perdue d'avance. Quand le 18 août 2020, des généraux maliens font un coup d'État et donnent 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le Mali, on comprend que l'échec de l'action politique et de l'armée française au Mali sont complets. Tout cela est raconté dans le détail par Rémi Carayol, journaliste au Monde diplomatique, dans son livre intitulé « Le mirage du Sahel, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ?». Ce livre a été publié aux éditions de la Découverte en janvier 2023. Rémi Carayol nous a accordé un entretien pour Civis Pacem le jeudi 8 juin 2023. Mais en 2018, nous avions déjà entendu Rémi Carayol dans notre émission. Il venait de publier un article dans Le Monde diplomatique qui avait pour titre « Au Mali, la guerre n'a rien réglé ». et nous l'avions interrogé sur les actions de l'armée française au Mali depuis l'intervention militaire lancée par François Hollande dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013. Alors pourquoi, en 2018, Rémi Carayol pensait déjà que l'armée française était dans une impasse?
5 ans après Serval et 4 ans après la transformation de Serval en opération Barkhane, donc qui était étendue à d'autres pays. Bon, c'était assez clair à cette époque que c'était une impasse, cette guerre. Il suffisait de se rendre sur le terrain, ce qui était mon cas, au Mali, mais aussi dans les autres pays de la région, pour voir que en fait, les opérations de l'armée française n'aboutissaient à aucun résultat concret, puisque certes, ils annonçaient des morts de combattants djihadistes régulièrement, les militaires français, ils annonçaient des morts de chefs djihadistes aussi, mais dans le même temps, les groupes djihadistes ne cessaient de gagner du terrain. Non seulement ils gagnaient du terrain, mais en plus, ils gagnaient des partisans. Pour différentes raisons, hein, évidemment. Et donc...